Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, permettez-moi de vous accueillir en vous souhaitant une très bonne et belle année 2012, puisque c'est le dernier jour où nous pouvons le faire. Et j'avais envie de commencer cette année en évoquant un événement malheureux, somme toute, qui fait l'actualité du champ freudien. Et en rendant hommage à Éric Laurent et Estella Solano Suarez et Alexandre Stevens, qui sont trois psychanalystes de notre champ, qui ont déposé plainte contre un film dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « Le mur de la psychanalyse ». Alors, en deux mots, parce qu'il me semble important de souligner ce qui est en jeu là, une journaliste a gagné la confiance de plusieurs psychanalystes dans différents champs et au montage de son film, elle a fait des coupures dans les propos des personnes et elle a notamment introduit des voix off qui introduisaient des questions qui n'étaient pas les questions posées, par exemple, à l'origine aux psychanalystes interrogés. Et donc il y a une réelle manipulation des propos de nos trois confrères qui sont partis en justice et pour lequel un jugement a été rendu demandant de retirer immédiatement ces extraits du film et leur propagation sur Internet. Donc le jugement est incontestablement en leur faveur. Et il me semblait important de souligner, au fond, combien la transmission de la psychanalyse dans notre champ d'orientation lacanienne, à travers des reportages, à travers différents lieux d'enseignement où œuvrent les collègues du champ freudien, restait toujours quelque chose d'infiniment délicat, me semble-t-il, et qui requérait de garder cette précision qui est celle de notre champ et qui, au fond, a été mutilée complètement par la journaliste et son reportage de façon assez odieuse et de ne pas rentrer dans des automatons de transmission. Et pour moi, ça fait écho à ce qui est dit dans les deux séminaires qu'on parcourra aujourd'hui où Lacan insiste sur le fait que enseigner la psychanalyse, ce n'est pas être professeur de psychanalyse. Et donc toute la question de la transmission, on la retrouve ce soir dans les chapitres qu'on va parcourir. Comme on l'a retrouvé, et je voudrais aussi rendre hommage à cet événement, à la journée Lacan vivant qui a eu lieu à Mons le 7 janvier et qui a été organisée par la CF Belgique, l'antenne clinique de Mons et à l'initiative de Christophe Dubois. Voilà, je voudrais vraiment souligner l'engagement de chacune des personnes et les féliciter pour ça. Alors aujourd'hui, nous allons entendre deux nouveaux conférenciers. D'une part, Bernard Sénave, qui va commencer aujourd'hui en nous parlant de l'angoisse signal du réel, dans la séance 12 du séminaire sur l'angoisse. Alors Bernard Sénave est directeur du Courtil à Tournai, dont beaucoup de nos conférenciers travaillent, notamment au Courtil. Il est psychanalyste à Lille et enseignant à la section clinique de Lille également. Et nous entendrons aussi Cathy Langelet qui nous parlera de la séance 13 sous le titre « Sur l'amour ». Cathy Langelet est psychanalyste à Charleroi et à Bruxelles et elle est également directrice du CRIPSA à Charleroi qui accueille le CPCT également à Charleroi qui est un lieu où des adolescents sont reçus pour une période déterminée et gratuitement. Donc, je vais leur céder la parole, tout d'abord à Bernard Sénave. Merci d'être avec nous ce soir.
Donc, moi, on m'a demandé de commenter la séance 12 et Cathy la séance 13. Voilà. Alors, je ne sais pas comment, mais les précédents ont travaillé, ce qu'ils ont amené. Peut-être qu'il y aura des redites. Tant pis, c'est comme ça, et puis s'il n'y a pas de redites, tant mieux. Alors, donc, peut-être pour situer cette séance qui se situe à peu près au milieu du séminaire, je voudrais amené ceci, c'est que d'abord situer l'angoisse, ce séminaire l'angoisse, par rapport aux autres séminaires. Donc l'angoisse, le séminaire 10, est un chantier au fond, un work in progress. C'est un chantier qui va aboutir à une avancée épistémique qui est vraiment importante. Le séminaire suivant, le 11, donc qui n'est pas n'importe lequel, qui se situe à un moment sensible de l'histoire de la psychanalyse, puisque c'est à ce moment-là, à la fin de ce séminaire-ci, donc enfin, la charnière entre ce séminaire-ci et le suivant, que Lacan a été, entre guillemets, excommunié. Donc, le séminaire suivant, c'est un séminaire extrêmement important, et le séminaire 10 l'y prépare. Et d'ailleurs, donc le pas suivant qu'il va faire, c'est le séminaire 11, le séminaire sur les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Et Jacques-Alain Miller le notait dans l'enseignement de Lacan, le séminaire 11, c'est le début véritablement de l'enseignement de Lacan lui-même. Pour le dire d'une façon simple, jusque-là, Lacan, au fond, lisait et relisait Freud. Hein? Il relisait Freud avec l'apport de la linguistique. Je ne reprends pas ça, sûrement vous avez déjà travaillé ça, mais rappelons seulement que c'est une modification essentielle dans ce séminaire, parce que c'est une modification essentielle dans ce séminaire. C'est ce qui a permis à Lacan de donner au symbolique son importance primordiale et de formaliser ses définitions de l'inconscient. Toute cette première partie de son enseignement. L'inconscient, donc, avec la linguistique, l'inconscient, sûrement que ça a déjà été travaillé ça plusieurs fois, hein, l'inconscient en tant que discours de l'autre, en tant que structuré comme un langage. C'est ça la lecture que fait Lacan de Freud à partir de la linguistique moderne. Le séminaire 11, donc qui suit le 10 ici, va constituer une coupure épistémologique dans l'enseignement. Et ça n'est pas par hasard. En 64, donc l'année qui suit, Lacan revisite chacun des concepts freudiens, l'inconscient, la répétition, le transfert et la pulsion, qu'on peut d'ailleurs considérer comme quatre noms du père à la lumière de deux autres concepts qu'il ajoute à Freud, celui du sujet et celui du réel. Et c'est la raison pour laquelle Miller peut dire que aux quatre concepts fondamentaux freudiens, Lacan ajoute deux qui sont lacaniens, le sujet et le réel. Donc, l'inconscient, la répétition, le transfert, la pulsion, et Lacan ajoute le sujet et le réel. Donc, le séminaire sur l'angoisse, c'est un chantier qui va aboutir à ça. Je trouve que c'est important et intéressant de le relever parce que vous allez voir dans cette séance-ci déjà ce qu'il va amener, ce qu'il peut amener pour conceptualiser le sujet, ce que c'est que le sujet, à partir de l'objet. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, avec ce séminaire L'Angoisse, le 10 que vous travaillez cette année, eh bien, c'est la nature de l'objet qui est entièrement repensée. Et puisque je vous dis que c'est la question du sujet qui est amenée l'année suivante comme nouveau concept, la question de la séparation, dans ce séminaire, la question de la séparation qui est dans le processus de l'advenue du sujet qui est quelque chose qui est absolument fondamental, eh bien, la question de la séparation dans ce séminaire, qui est en jeu dans le processus de la causation du sujet, se traduit comment ? Eh bien, par une coupure. Une coupure, une cession due par le sujet, que le sujet doit opérer pour accéder à sa condition d'être parlant, disons. Il s'agit d'une coupure. Et de la part de celui qui parle, donc de l'être qui parle, il s'agit pour lui de consentir à perdre quelque chose. À perdre quoi ? Alors, c'est ça qui est absolument nouveau dans ce séminaire, à perdre un bout de corps, figurez-vous, à perdre un objet réel. Et ça, c'est nouveau dans l'enseignement de Lacan. Et ça va aboutir à une reconsidération des concepts freudiens. Donc, voilà pour situer un petit peu l'enjeu, si vous voulez, de ce séminaire. Lorsque l'enfant, encore infans, vient au monde, il ne parle pas encore, eh bien, l'enfant émet des sons. Mais il n'en passe pas. Il y a un temps préalable, si vous voulez, à l'entrée dans le langage, parce qu'il n'en passe pas par l'autre pour produire du sens au son qu'il émet. L'enfant, avant qu'il ne parle, l'infance, devient sujet d'une parole lorsque ces sons vont produire du sens pour l'autre. Donc la place de l'autre est évidemment importante. Et lorsqu'il prend la parole, c'est-à-dire lorsqu'il attrape des signifiants pour les renvoyer à l'autre. Donc c'est dans ce mouvement, si vous voulez, de prise de parole adressée à l'autre que dans cette opération de production, disons, de sens adressé à l'autre, que l'enfant, donc le sujet, perd quelque chose dans l'affaire. Il y perd quelque chose. Et ce qu'il perd, c'est un bout de corps, un morceau d'organe, un morceau de corps. C'est comme ça que Lacan reprend les choses à ce moment-là de son enseignement. Ce morceau de corps, eh bien, c'est ça l'objet A. Alors, pour vous donner une petite idée de ce que ça serait, cet objet réel, je reprends un petit exemple que propose d'ailleurs Marie-Hélène Brousse, qui a amené ça lors d'une conférence. Par exemple, lorsqu'une femme se peigne devant le miroir, devant son miroir, elle prend du soin de ses cheveux. Elle les peigne, elle se fait belle, elle les, disons, agamatise, voilà, j'arriverai à le dire. Donc elle les rend brillants d'une certaine façon. Mais il y a des cheveux qui tombent quand on se peigne, et qui tombent dans le lavabo et qui bouchent le siphon du lavabo. C'est gluant. C'est dégueulasse. Ce bout de corps que vous perdez, eh bien, ça peut vous donner une idée de ce que c'est que l'objet réel. Et je pense qu'après tout, c'est intéressant de relever cet exemple parce que c'est aussi ce qu'on peut relever des témoignages, dans beaucoup de témoignages des AE. Ce bout de corps, enfin, c'est quelque chose qui a été agalmatisé, qui a été voilé, complètement voilé, à un moment donné, il apparaît comme bout de réel, comme bout de corps réel. Et dans ce séminaire, Lacan reprend l'objet vraiment du côté anatomique. C'est comme ça qu'il amène ce qu'il en est de l'objet A. Alors, quelle différence avec l'objet qui était amené avant avec Freud? On va essayer de préciser ça. Jusque-là, Lacan devait parler de l'objet perdu de Freud dans, encore une fois, je le dis, en l'inscrivant, en prenant en considération la primauté du symbolique. Donc la primauté de l'inconscient structuré comme un langage. C'est ce qui est mis en valeur, si vous voulez, notamment dans un séminaire intermédiaire, par exemple le séminaire 5. Dans le séminaire 5, le père lacanien, c'est celui qui est développé, c'est là où Lacan développe de façon précise ce qu'il en est du nom du père. Donc avant ça, bien sûr, il y a eu le séminaire 3, mais c'est lors du séminaire 5 que sera écrit la question préliminaire et donc la métaphore paternelle. Donc à l'année du séminaire 5. Eh bien, la caractéristique du séminaire 5 qui se situe donc au cœur, si vous voulez, de la primauté du symbolique dans l'enseignement de Lacan, Eh bien, l'accès au désir se fait dans le temps de la prise de la parole du sujet, et l'objet du désir à cette époque des premiers séminaires, c'est ainsi un objet qui est, c'est ici un objet qui est visé, si vous voulez. C'est, l'objet, c'est un objet, donc l'objet perdu est considéré comme un objet visé, qui se trouve en avant, qui est ouvert au sujet grâce au troisième temple de l'Oedipe qui est développé dans le séminaire 5. Le père de Lacan, c'est un père qui invite au désir. C'est le père du troisième temple de l'Oedipe qui est développé dans le séminaire 5, c'est un père qui invite au désir. C'est un père qui permet que ses enfants puissent désirer. Donc, je ne développe pas plus ça, mais je voudrais situer ce qu'il en est de l'objet du désir dans ce premier temps de Lacan, cette période où c'est le symbolique qui domine. Et 5 ans plus tard, donc, dans le séminaire 10, l'objet de Lacan, l'objet A, ça n'est plus un objet visé, mais il est devenu un objet cause. Donc, si... Où sont les craies ? Dans le premier temps de Lacan, donc, le désir, eh bien, s'articule à un objet visé. À partir du séminaire 10, l'objet est un autre objet. Ça n'a plus la même nature. Le désir s'articule à un objet cause. Donc, il précède, si vous voulez, il est antérieur à l'instauration du désir. Il se situe avant le désir. On devrait le mettre ici. L'objet cause produit le désir. Je vais peut-être effacer ça s'il y en avait. Voilà, comme ça. Donc il faut définir ce que c'est que cet objet. Quelle est la nature de cet objet? C'est ça le j'allais dire l'os de ce séminaire. Et d'ailleurs, si je vous ai amené, je me suis appuyé sur le séminaire 5, où là, Lacan développe le nom du père, la métaphore paternelle, s'appuie sur le mythe de l'Oedipe pour développer tout ça. Eh bien, dans ce séminaire, ce séminaire-ci et surtout le suivant, Lacan n'amène plus rien, ne s'appuie plus sur l'Oedipe. Enfin, on verra, il parle de l'Oedipe ici, mais plus du tout dans les mêmes termes. Ce n'est plus du tout dans les mêmes termes. Il abandonne cette question, et d'ailleurs dans le séminaire 11, il n'en parle plus. Ce dont il est question, c'est plutôt un autre mythe, c'est le mythe de la lamelle, où là, il s'agit plus d'un objet réel. Ce qui est mis en question, c'est... ce qui est la clé de ce mythe, c'est l'objet réel. Séparé du corps, l'objet réel séparé du corps avant toute symbolisation. Avant qu'il se mette à s'inscrire, si vous voulez, dans un discours, à s'inscrire dans la parole et à désirer. Donc là, on n'est plus dans du côté de l'objet visé, l'objet désiré. Mais il y a quelque chose qui cause le désir, qui est antérieur à ça, avant la mise en route, si vous voulez, de la symbolisation. Et ce qui est antérieur, donc, qui est antérieur au désir, eh bien, c'est un objet réel. Il a une autre nature. Dans ce séminaire, attribue à cet objet une caractéristique très singulière. L'objet réel, non, je pense que donc dans les séances précédentes, ça doit avoir été abordé, mais il reprend ça encore une fois ici. L'objet réel, c'est quoi? Il y a plusieurs caractéristiques à l'objet réel. Mais l'une des caractéristiques, c'est qu'il n'est pas spécularisable. Vous savez ce que c'est qu'un objet qui est spécularisable? C'est que lorsque, donc vous pouvez le voir, mais il a une particularité, c'est que dans le miroir, par exemple, il se présente en symétrie. La gauche devient la droite devient la gauche, c'est en symétrie. Ici, est-ce que ça existe, ça? Eh bien oui, ça existe. Enfin, l'un des exemples qu'il utilise, c'est notamment la bande de Möbius. La bande de Möbius n'est pas un objet symétrique dans le miroir. Mais il y a des objets qui ne sont pas spécularisables, qui ne sont pas plus spécularisables. Enfin, l'un des exemples qui a été amené, je pense, dans ce séminaire, peut-être on en a parlé, c'est Orla de Maupassant. C'est le surgissement, tout à coup, de quelque chose qui ne doit pas se trouver dans le champ visuel. Quelque chose qui apparaît, qui surgit comme ça dans le champ visuel. Ça, c'est une des caractéristiques de l'objet réel. J'en ai donné d'autres, hein, puisque Marilyn Bruce vous a donné un petit exemple de ça aussi, des bouts de corps, si vous voulez, qui deviennent alors des déchets. On verra un peu plus loin ce que ça peut donner, ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc, les objets réels, eh bien, ils sont construits, Lacan les construit comme non spécularisables, et ils ne peuvent pas être pris dans l'espace du miroir, ils ne peuvent pas être pris dans le champ scopique, ils échappent au champ visuel. Donc, ce séminaire, dans le séminaire 5, pour pouvoir développer le nom du père, la métaphore paternelle, il a besoin du complexe d'Œdipe, il a besoin du mythe de l'Œdipe, eh bien on peut dire que dans ce séminaire, c'est ce que souligne Miller, dans ce séminaire, en tant qu'il est un séminaire anti-Œdipe, c'est un séminaire anti-Œdipe, en tant qu'il abandonne l'objet du désir défini comme objet visé, l'objet agalmatique, l'objet d'amour, c'est un objet qui est agalmatisé. C'est un objet qui est voilé, qui cache son horreur, qui cache l'horreur. L'objet d'amour qui voile l'objet réel et qu'il évolue et aboutit à l'objet réel, l'objet cause, qui permet au sujet l'accès à l'autre à condition de consentir à y perdre un petit bout. Ce séminaire va aboutir logiquement à remettre en question le nom du Père comme seule solution, le nom du Père comme seule solution pour accéder à l'autre, à la dimension de l'autre en tant que grand autre. Et c'est pour ça que, ça vous allez voir, je pense, dans la toute dernière leçon, c'est pour ça qu'à la fin de ce séminaire-ci, Lacan va se proposer de tenir un séminaire l'année suivante, pas sur le nom du Père, mais sur les noms du Père, puisqu'il y a beaucoup de façons différentes d'essayer d'accrocher ce qu'il en est du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Les noms du Père. Vous savez que donc, ce séminaire ne le fera pas, puisqu'il aura été excommunié au moment où il voulait le présenter. Et donc il va plutôt... Il va faire ce séminaire 11 sur les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Mais on voit dans quelle logique on se situe. Il abandonne, c'est plutôt un séminaire de l'anti-Œdipe, il abandonne le nom du Père et ça va aboutir à tout autre chose l'année suivante. Où là, c'est, j'allais dire, du Lacan pur laine. Alors, l'année suivante, je vous ai dit, déjà ici, hein, c'est la question de savoir comment un sujet, de la parole peut advenir. C'est de ça qu'il est question. Je vous ai dit, son concept à lui, notamment celui de l'objet, mais aussi du réel, mais aussi du sujet. Hein. Comment un sujet peut advenir à la parole, comment c'est l'opération de causation du sujet qui va être développée tout à fait l'année suivante, mais il est déjà en route ici pour préparer ça. Alors, et donc, vous voyez bien que la question de l'objet, ici, le bout de réel en jeu, qui est perdu, eh bien, pose une question fondamentale dans l'advenu d'un sujet, c'est celle de la séparation. C'est pour ça, moi, que cette leçon-ci, je l'ai plutôt abordée en ayant cette question en tête, la question de la séparation. Et donc, tout ce mouvement, si vous voulez, qui va aboutir au séminaire 11, c'est celui que j'ai repris au tableau. C'est le mouvement du séminaire, c'est un mouvement de bascule qu'il opère en faisant passer l'objet visé du désir à l'avant en tant qu'objet cause du désir. C'est le mouvement de ce séminaire. Et comment Lacan, dans cette leçon-ci, traite de cette question ? Il commence par dire, par rappeler, que l'angoisse n'est pas sans objet. Donc, leçon qui a pour titre « L'angoisse signale du réel ». L'angoisse n'est pas sans objet. Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il formule, si vous voulez, sa proposition de cette façon-là ? Pourquoi est-ce qu'il ne la formule pas positivement, l'angoisse a un objet. D'abord parce que les auteurs de l'époque distinguaient, si vous voulez, faisaient une différence entre la peur, et l'angoisse. Ils la distinguaient comment ? Eh bien, soit par la présence ou par l'absence de l'objet. Au fond, l'angoisse à cette époque-là, était plutôt considéré comme sans objet. La peur aurait ceci de particulier qu'il y aurait, dans cette situation, un danger objectif. La peur s'articulerait à l'objet. D'où s'origine le danger ? On a peur de quelque chose, ce qui permettrait d'échapper à l'objet du danger. C'est un peu c'est une façon de voir aussi le cas du petit Hans, l'angoisse se transformant en peur de l'objet. Le travail qu'il ferait serait ça. Et donc, la peur, selon Goldstein, qui est cité dans cette leçon, qui a été cité dans d'autres leçons aussi, que vous avez vues, la peur se repérerait à l'objet. Vous voyez la nuance. L'angoisse n'aurait pas d'objet. La peur aurait un objet. D'où la façon de corriger de voir les choses de Lacan. Pour lui, l'angoisse n'est pas sans objet. Donc Lacan va démonter ce raisonnement. Il le montre d'une part parce qu'il existe, il reprend des exemples cliniques dans cette leçon, il existe des peurs sans objet. Et d'autre part, il va tenter de définir ce qu'il en est de l'objet de l'angoisse. L'objet réel, à partir d'un objet non spécularisable, qui est le regard. Il commence donc par reprendre quelques exemples cliniques. Si vous avez lu cette leçon, vous avez pu les repérer, hein, notamment l'exemple d'une frayeur qui est éprouvée par Tchekhov. Frayeur qui, dit-il, ne peut en aucune façon s'appeler angoisse. Alors, ce dont il s'agit, donc ça n'est pas non plus de l'ordre de l'angoisse, mais c'est de la peur. Alors, de quoi il s'agit ? Tchekhov décrit quelque part qu'il aperçoit à un moment donné, alors qu'il est dans la campagne, il aperçoit sur le clocher à la lucarne une lumière. Et donc, à ce moment-là, il éprouve une frayeur, parce qu'il sait qu'on ne peut pas accéder, que c'est impossible d'accéder à ce clocher. Et donc là, il est pris d'une grande frayeur, et Lacan distingue radicalement ce que Tchekhov éprouve dans cet instant de l'angoisse, dans la mesure où, dit-il, la caractéristique de l'angoisse manque. Et c'est quoi cette caractéristique de l'angoisse? Eh bien, on peut le noter aussi, ça. L'une des caractéristiques de l'angoisse, c'est que ici, dans ce cas-ci, le sujet n'est pas concerné. Il n'est pas intéressé non plus, au plus intime de lui-même. Dans l'angoisse, ça on peut le remarquer, là, il y a quelque chose au plus intime du sujet qui est concerné. Et cette frayeur qui est décrite par Tchekhov, c'est une frayeur, c'est une peur sans objet. Une autre contradiction. L'idée d'attribuer un objet à la peur, eh bien, ça ne tient pas nécessairement la route. Pourquoi est-ce qu'on attribue un objet à la peur? Eh bien, parce que ça permet de rendre la peur adéquate. C'est-à-dire que la peur permet de déclencher la fuite. On voit un peu comment le petit Hans, lui, a travaillé son angoisse. Eh bien, en attribuant la peur au cheval, ça lui permettait de ne pas sortir, par exemple, pour ne pas les rencontrer. Eh bien, dit Lacan, ça non plus n'est pas très très juste, parce qu'après tout, on sait bien que dans un certain nombre de cas, la peur paralyse plutôt, inhibe un sujet. Et moi, j'ai une petite anecdote à ce sujet qui m'a fait penser à ça. C'est dans le métro, je pense que Philippe était là quand c'est arrivé, il me semble. Mais oui, à Paris, un jour, on se précipite, dans le métro, une dame veut se précipiter dans le métro, les portes se ferment et son manteau est pris dans la porte. Eh bien, il y a eu un moment de sidération des gens. Les gens n'ont rien fait. Ils sont restés sur place, cloués sur place. Il y en a un qui a tiré l'alarme. Heureusement, finalement. Mais les autres ne bougeaient pas. Ils étaient complètement figés sur place. Et là, on ne peut pas dire que ce n'était pas de l'angoisse, c'était la peur de quelque chose. Les sujets eux-mêmes n'étaient pas concernés, si vous voulez. Alors, il faut rechercher ailleurs que dans la présence ou dans l'absence de l'objet, ce qui distingue la peur de l'angoisse. Vous voyez? Parce qu'après tout, comme on le disait, il n'y a pas nécessairement d'objet dans la peur. Et la peur peut paralyser complètement quelqu'un. Donc recherchons ailleurs. Et je reprends cette phrase dite par Lacan, qui dit que le sujet dans la peur n'est pas concerné, qu'il n'est pas ni concerné ni intéressé au plus intime de lui-même, ça veut dire que dans le cas de l'angoisse, ça c'est une remarque importante, dans le cas de l'angoisse, le sujet est intimement concerné. Au plus intime de lui-même. La question de savoir s'il y a ou il n'y a pas d'objet ne nous avance donc pas, et on doit s'avancer dans une autre direction, celle donc de l'implication du sujet au plus intime de son être. Avançons par là. Alors Lacan prend appui sur une précision de Freud. Freud précise que dans l'angoisse, l'angoisse s'articule à un danger qui vient de l'intérieur. Et pour être précis, ce qu'il faudra développer, Freud dit que c'est ce qui est touché dans le cas de l'angoisse, et ça c'est fort, fort important parce que ça nous donne une idée de l'orientation du travail avec les gens. Dans l'angoisse, c'est la défense du sujet qui risque d'être touchée, qui est visée en tout cas. Le sujet se sent en danger au plus intime de lui-même, et lorsque la défense du sujet, du moi, est titillée, eh bien, c'est l'angoisse qui l'en avertit. L'angoisse est un signal de danger, qui risque d'ébranler la défense du sujet face à quelque chose, face à un objet dont il est nécessaire de préciser la nature. Alors, avançons encore. Et c'est ici que Lacan, ça va jusque-là, j'avance pas à pas. Hein. Ici, Lacan, pour tenter de s'approcher, de s'en approcher, il va s'inspirer de l'opération arithmétique de la division. Alors, la question des mathématiques a toujours intéressé Lacan parce que les mathématiques sont considérées comme une science. Et que l'objet là, est un objet réel, on peut dire ça comme ça, il me semble. Alors, il prend son support sur la division parce que il s'agit bien de la question de la division du sujet qu'il s'agit, l'inscription du sujet au lieu de l'autre, d'une division qui a pour particularité de produire, dit-il, un reste irréductible. On va essayer de comprendre ça. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas celui inspiré de l'exemple de Lacan lui-même. Hein. Je vais prendre un exemple. Prenons une division. Une division avec un reste. Alors, plus simple, disons, ça serait, je vais me la mettre ici, c'est 7. Vous avez tous appris ça quand même, divisé par 3. C'est comme ça, en tout cas de mon temps, c'est comme ça qu'on faisait les divisions. Peut-être qu'on ne le fait plus comme ça maintenant. Je ne sais pas. Si je divise 7 par 3, eh bien, je peux écrire 2 ici. 2 fois 3 égale 6. Et il y a un reste. Et le reste, c'est 1. Vous êtes d'accord? Eh bien, ce reste est absolument important parce qu'il va nous servir, si je poursuis mon raisonnement, je pourrais reprendre une autre division et poursuivre en disant 1 divisé par 3. Vous êtes d'accord? Là, vous êtes d'accord avec ça tout de même? Je vais mettre une virgule ici, ajouter un 0. Après tout, c'est comme ça. Ici, si je mets 10 ici, je fais 3. Ça fait 9. Et il y a encore un. Encore une fois un reste. 9. Et il y a encore une fois un reste. Et je peux continuer comme ça. D'accord? Elle ne tombe pas juste. Il y a un reste. Le reste, c'est 1. Et Lacan va pouvoir dire, à partir de là, si je prends le schéma que lui a produit, eh bien, il refait la même division. Où il dit, je l'écris déjà comme ceci, c'est le grand autre. On pourrait poser la question, combien de fois il y a le sujet dans le grand autre? C'est comme ça qu'il pose la question. Donc, ce qu'il faut comprendre, je vais poursuivre, vous allez voir où ça nous mène. Ce qu'il faut ce dont il est question ici, c'est de tenter de comprendre comment le sujet s'inscrit au lieu de l'autre. C'est ça l'opération de causation du sujet. Comment le sujet s'inscrit au lieu de l'autre. C'est l'opération de l'avènement du sujet. Le procès de la subjectivation, nous dit Lacan, et qu'il va développer l'année suivante avec la causation du sujet et les deux opérations. Si vous avez déjà une petite... On a travaillé ce séminaire ici, le 11 déjà, non? Oui. Non, pas encore. Ben alors, c'est logiquement celui-là qu'il faut faire l'année prochaine. Bon. L'opération d'aliénation et de séparation, vous voyez? Donc, ce sujet-là, qui n'est pas barré, qui n'est pas divisé, que j'ai écrit grand S, que Lacan écrit grand S, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il existe un préalable à la prise de parole du sujet. En tout cas, à ce moment-là, il le présente encore de cette façon-là. Il y a un préalable mythique, dit Lacan, d'un enfant à venir, qui n'est pas encore né, dont on parle déjà, on lui attribue un nom. qui n'a pas pris la parole, mais que le grand autre, donc le grand autre familial, au fond, disons ça comme ça, qui est le trésor des signifiants, a déjà nommé. C'est ça le S. Voilà. Qui est le sujet dont on parle, un sujet en puissance, qui n'est pas encore né, qui n'a pas encore pris la parole. C'est celui dont Lacan peut dire qu'avant qu'il n'ait pris la parole, le sujet porte déjà son signifiant. Il n'est pas encore sujet du signifiant. Mais il ne pourra exister qu'en s'appuyant sur les signifiants qui existaient avant lui, le grand autre. En s'appuyant sur ce signifiant, sur son signifiant dans le grand autre. Comment lui va s'inscrire là, avec, dans ses signifiants, comment lui va prendre la parole. C'est ça la question. Dans ses signifiants, avec ce signifiant, en s'appuyant sur ce signifiant qui lui est antérieur, si vous voulez. Toute la question est de savoir comment ce sujet va pouvoir se mettre à exister. Disons, dit Lacan, que le sujet fait une première opération interrogative dans l'autre. Combien de fois est-ce dans l'autre? Et s'il fait cette opération, alors il peut écrire qu'il y a un reste, si je fais ça autant de fois qu'on veut, il y a un reste qu'il écrit petit a. Et évidemment, comme l'autre, comme il n'y a pas de commun, je ne peux pas me tromper, donc... Le commun dénominateur. Puisqu'ici, vous voyez, ça ne tombe pas juste. Eh bien, il n'y a pas de commun dénominateur entre, entre l'autre et grand S. Alors, il y a un reste. Le reste, c'est ça, c'est petit a. Et si, c'est ça qui produit le sujet, si vous voulez. Parce que l'opération se poursuit tout le temps, en ratant à chaque fois. C'est ça qui produit le sujet. Et au fond, on peut réduire le sujet à quoi? On peut réduire le sujet à ce reste, puisque l'opération se poursuit. Le sujet, c'est l'inscription de quelque chose qui va se poursuivre. Qui fait que parce qu'il y a pas, qu'il y a un reste, l'opération doit continuer, doit se poursuivre à l'infini. Eh bien, le sujet qui est concerné là, au fond, c'est le rapport de petit a à s. Le sujet, vous êtes d'accord? C'est assez simple, hein? Le sujet qui va se déposer, si vous voulez, dans le calcul, c'est le rapport du reste à grand S. Donc, au fond, il y a une différence entre le grand autre, grand A, et la barrée. Hein. Il y a un reste qui est l'irréductible du sujet. C'est l'opération de division de l'autre par le sujet, où on prend comme premier résultat le chiffre, je reprends ce que dit Lacan, le chiffrage même du sujet, et on isole de façon supplémentaire le reste que Lacan écrit petit a. Et en effet, il y a un reste puisque l'opération ne tombe pas juste. Si le champ de l'autre n'était composé que de Miller dit de 1, au pluriel, eh bien l'opération tomberait juste. L'autre serait irréductible à tous ces 1, si vous voulez. Or, dans cette opération, il y a un reste qui n'est pas de l'ordre du signifiant. Donc, A, le grand A, n'a pas de dénominateur commun entre petit a et grand S. Et si on veut boucler tout de même l'opération, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met au numérateur le reste et au dénominateur le diviseur. Et c'est pour ça que Lacan peut dire que le sujet barré est équivalent en petit a sur grand S. Et Lacan alors ajoute que petit a, en tant qu'il est la chute de l'opération subjective, on peut y reconnaître structurellement, dans ce reste de l'opération, par analogie au calcul, à l'objet perdu. Alors maintenant, Lacan fait un pas de plus dans cette leçon. Il situe là l'angoisse, dans ce moment logiquement antérieur au moment où on a affaire dans le désir. Donc au fond, si je reprends cette opération, il fait ceci. Donc ça, on peut le remettre. Le sujet, c'est l'équivalent au reste sur le sujet. Il dit qu'il y a un moment antérieur, il y a un X ici, l'angoisse ici, et le désir ici. Au fond, donc, il y a un moment logiquement antérieur au moment où on a affaire dans le désir. La question, c'est, si vous voulez, pour dire les choses peut-être encore plus simplement, l'angoisse surgit quand on est en panne de désir. On pourrait dire ça aussi de cette façon-là. Si on peut continuer à désirer, alors on voit l'objet cause, si vous voulez. On voit l'horreur. Tant qu'on peut désirer, bien l'objet réel est voilé. Lorsque le désir tombe en panne, si vous voulez, à ce moment-là, on peut éprouver un moment d'angoisse. Si vous voulez un petit exemple clinique, c'est assez simple. Ben, prenez le rêve de la belle bouchère, mais vous pouvez aussi bien prendre un tout autre exemple. On sait bien que, par exemple, si une femme passe devant la devanture d'un bijoutier et qu'elle voit là une rivière de diamants, elle désire cette rivière de diamants parce qu'elle sait bien qu'elle ne pourra pas l'avoir. Mais il suffit que... Donc là, on est dans le désir, si vous voulez. C'est l'objet visé. On pourrait dire ça comme ça, l'objet visé. Mais il suffit que son amant entre dans la boutique pour lui offrir la rivière de diamants, à ce moment-là, on est dans l'objet cause et elle éprouvera probablement un moment d'angoisse à ce moment-là parce que le désir va se retrouver en panne. L'objet qu'elle désirait, elle l'a obtenu. Il faudra un certain temps, enfin, je ne sais pas combien, mais un certain temps pour se remettre à désirer autre chose, si vous voulez, qu'elle ne pourra pas obtenir. Le temps de l'angoisse, c'est le temps qui précède, si vous voulez, qui est antérieur à l'objet du désir. Vous êtes d'accord avec ça? C'est assez simple, hein? C'est ça que ça veut dire. Donc moi d'ailleurs, je proposerais, peut-être, c'est un peu audacieux, mais pourquoi pas, on peut discuter après tout, je proposerais que ce... J'ai encore le temps un peu? Un quart d'heure. Ah ben voilà, c'est parfait. Que de reconnaître dans ce X-là, le X que propose Lacan, eh bien, pourquoi pas y mettre le X du désir de la mère aussi, que Lacan fait valoir dans la métaphore paternelle. Il y a au départ un X que nous ne pouvons nommer que rétroactivement, dit Lacan, qui est à proprement parler l'abord de l'autre, la visée essentielle où le sujet a à se poser. Nous avons ici le niveau de l'angoisse, là où se trouve donc l'angoisse, comme vous le voyez au tableau, constitutive de l'apparition de la fonction de A. Et au troisième temps, ce n'est qu'au troisième temps qu'apparaît le désir. Je vais un peu passer ça, peut-être pour revenir à la nature de cet objet réel. Hein? Alors, Lacan dit que l'angoisse se situe précisément au moment. Lacan reprend d'ailleurs le mythe de l'Oedipe dans cette leçon aussi. Et il explique ceci. Il ne reprend pas l'Oedipe du côté de comme dans le séminaire 5, l'Oedipe en tant que c'est le père qui invite au désir. Il le reprend du côté de l'objet réel, cette fois-ci. Et il dit que ceci, dans le mythe de l'Oedipe, où se situe l'angoisse? Eh bien, l'angoisse se situe précisément au moment où Oedipe voit ce qui est impossible à voir. Et ce qui est impossible à voir, c'est quoi? Eh bien, c'est le réel. Et il voit, c'est impossible à voir, c'est quoi? On entend bien dans la formulation même de la phrase, il voit ses propres yeux désorbités sur le sol. Donc cet instant de perception du réel, soit ce qui peut se révéler derrière le voile du fantasme. Et ça, c'est ce qu'on retrouve toujours dans la phénoménologie de l'angoisse. C'est ce que dit Lacan. Et je pense aussi que cette vision, on peut aussi la retrouver dans un certain nombre de témoignages de passe. Alors ce fantasme, donc cette image du sujet qui perçoit son propre regard, eh bien, dit Lacan, on la rencontre assez couramment. Et notamment, il donne un exemple que vous avez peut-être lu aussi dans cette leçon, des deux peintures de Zurbaran, l'une qui est exposée à Montpellier, l'autre qui est exposée à Nantes, et qui représente Sainte Lucie et Sainte Agathe, qui présente chacune donc ses yeux ou ses seins sur un plateau. Et cette peinture, on la voit dans le séminaire, ces deux peintures, peut-être on peut les montrer rapidement. Elles sont là, oui. Donc ce sont deux peintures, et d'ailleurs, c'est Sainte Lucie et Sainte Agathe.
Il y a...
Oui, la page 202, 203. Sainte Lucie et Sainte Agathe, en fait, on la voit représentée, c'est pas seulement à Montpellier, à Nantes, hein, on la voit un peu partout. Elle est représentée souvent, en fait. C'est un martyr un peu particulier, hein, qui, l'une présentant ses yeux sur un plateau, l'autre présentant ses seins sur un plateau. Et il dit pourtant que la représentation de ces deux peintures, de ces objets réels, si vous voulez, sur le plateau, eh bien, ne produisent pas nécessairement chez celui qui les voit, ces peintures, un sentiment d'angoisse. Pourquoi? Parce que pour que ça produise un sentiment d'angoisse, il faudrait que ce soit le sujet lui-même qui soit concerné personnellement, qui soit impliqué. Encore une fois, le sujet impliqué. C'est ce qui se passe, dit-il, dans la perversion. Pour qu'il y ait angoisse, il faut se retrouver dans une configuration où le sujet est impliqué directement, lui-même, avec le réel qui est en jeu. Et là, il donne une série d'exemples que je ne vais pas détailler. Je vais simplement les évoquer rapidement. Mais l'exemple du sujet masochiste ou l'exemple du sujet sadique, on pourrait reprendre ça éventuellement dans la discussion par la suite, mais le plus caractéristique de ça, c'est le masochisme, le pervers masochiste, qui lui peut aller jusqu'à mettre en jeu sur la scène son propre corps comme déchet, en tant que déchet, comme loque humaine, si vous voulez, pour provoquer l'angoisse chez l'autre. Et donc, et d'ailleurs, ce mythe, au fond, de loque humaine provoquant l'angoisse chez l'autre, c'est au fond, après tout, aussi le mythe chrétien, le mythe de, qui est mis en valeur dans le mythe chrétien. Donc, toute l'aventure chrétienne, dit-il, est engagée sur une tentative centrale incarnée par un homme qui a poussé les choses jusqu'au dernier terme d'une angoisse de celui pour lequel est instauré le sacrifice. Et c'est qui? Eh bien, c'est le Père. Au fond, ce que le masochiste tente de réaliser, c'est la jouissance de Dieu. Donc, je vais conclure là-dessus. On verra que ce morceau de corps, donc, qui est présenté, c'est une caractéristique encore importante de l'objet dans le séminaire 10, ce morceau de corps qui est représenté sur un plateau, les yeux ou les seins, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quel morceau de corps. Il présente des caractéristiques aussi tout à fait particulières. Et ces caractéristiques, c'est quoi ? Eh bien, pour le comprendre, il faut peut-être reprendre encore un autre exemple qui est repris par Lacan lui-même. Si on prend l'exemple du fœtus, le fœtus, dans le ventre de sa mère, fait une unité avec l'enveloppe qui l'entoure, ainsi que le placenta. Le placenta fait partie du fœtus, du bébé à naître, avec son enveloppe. Quand il naît, au fond, on pourrait dire quoi ? On pourrait dire que ce qui fait contact avec la mère, le placenta, si vous voulez, l'échange qui se fait là, eh bien, est assez particulier parce que le placenta ne fait pas partie de la mère. Le placenta, c'est un morceau de l'enfant, on pourrait dire. Et à la naissance, qu'est-ce qui se produit ? À la naissance, la mère se détache, enfin, le placenta se détache de la mère, vous êtes d'accord ? Donc, il y a une coupure entre la mère et le placenta, mais à la naissance, il y a une autre coupure qui se produit. Il y a une coupure entre l'enfant et le placenta. Donc, toute la question, c'est de savoir où on situe la coupure. Est-ce que la coupure se situe entre la mère et le placenta ou entre l'enfant et le placenta ? Question qui est posée ici dans l'advenu du sujet. Eh bien, la même question peut tout aussi bien se reposer, j'allais dire, fantasmatiquement, en ce qui concerne l'enfant et le sein. Où passe la coupure ? Est-ce que le sein fait partie de l'enfant et la coupure passerait entre le sein et la mère ? Ou est-ce que la coupure se situe entre la mère et l'enfant ? Auquel cas, la coupure se situe entre l'enfant et le sein, vous voyez ? Non. La question de la séparation se pose en ces termes-là. Je ne fais que la poser. C'est toute une question de point de vue. Je ne fais que la poser. Mais si je la pose, c'est pour, en m'appuyant sur ce que dit Lacan, c'est pour vous indiquer que ces objets réels, ce ne sont pas n'importe lesquels. Ce sont des objets, des bouts de corps, qui sont plaqués sur le corps, si vous voulez. Je m'arrête là-dessus.
Merci beaucoup. Alors, je propose, comme on a fait les fois précédentes, de passer directement la parole à Cathy Langelet et nous poserons nos questions à chacun de vous deux au terme de l'exposé de Cathy.
Est-ce bien raisonnable, Anne, de passer directement, sans espace, sans souffle, entre les deux ? Alors, j'ai choisi de faire tout autrement que Bernard, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi de faire pas à pas. Je suis désolée. Je pense que je choisis cela à chaque fois. Je choisis d'extraire, en fait, un passage de la séance pour le... pas pour le commenter, justement, pour le développer. Et ici, je me suis arrêtée particulièrement sur l'aphorisme, sur celui qui m'a lui-même le plus arrêtée, qui m'a le plus intéressée, celui que Lacan énonce comme tel. Seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir. Alors, comme tout aphorisme, un aphorisme a pour la particularité de concentrer, de condenser. Et donc, à la fois, dans un premier temps, il vous parle, et quand il vous parle, l'instant d'après, vous ne savez plus très bien ce qu'il vous dit. C'est un côté fascinant, et puis en même temps, dans cette fascination, il y a aussi quelque chose qui est voilé. Et donc, j'ai fait l'exercice de le développer, de prendre cet aphorisme et de le déplier. Donc, cette phrase apparaît dans le 13e chapitre du séminaire de Jacques Lacan, l'angoisse. Elle condense la question de l'objet A et sa place dans la relation à l'autre, ainsi que les liens entre la jouissance et le désir. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de le déployer pour montrer ces diverses facettes et exposer ainsi ce qu'elles peuvent nous apporter comme enseignement. Alors, cette affirmation de Lacan avance que l'amour a un effet sur la jouissance. Précisément que cet effet est un effet de concession, de réduction, de transformation. Sur l'influence de l'amour, la jouissance passe au désir. C'est-à-dire qu'une perte est opérée. La jouissance impliquant un tout, tandis que le désir implique un manque. L'amour décomplète donc la jouissance. La jouissance, elle, est du registre du réel. Elle est ce qui n'est atteignable que par transgression, par exemple dans le séminaire L'éthique de la psychanalyse, dont on a parlé ici l'année dernière. Lorsqu'Antigone transgresse les lois humaines, la loi donc est dictée par Créon, le roi, pour donner une sépulture au reste de son frère. Elle franchit les limites. Elle passe du côté de la loi divine que lui prescrit la pulsion de mort. Ce n'est pas par amour qu'Antigone enterre son frère, contre la loi de la cité, mais c'est pour se régler sur la loi de l'autre, dans sa dimension folle, sa dimension sans limite. Comme Lacan le développera plus tard, dans le séminaire encore, Antigone est poussée à l'acte parce que plus jamais aucun humain ne pourra occuper la place du signifiant frère. C'est un trou réel, c'est-à-dire que plus personne. C'est un trou réel inclus dans le symbolique, le langage. Et ce trou réel aspire le sujet dans la pulsion de mort, dans la jouissance. L'amour, par contre, l'amour est du registre du symbolique. C'est un fait culturel, dit Lacan. Il dira aussi plus tard que l'amour est un effet de discours. L'amour est lié au langage, aux mots, aux histoires. L'amour n'est pas du réel, même s'il a des effets réels. L'amour courtois en est le prototype pour notre culture européenne. C'est l'élévation de l'objet d'amour à un objet de désir inatteignable. Un objet de désir interdit, mais dont tout le procès, le progrès, consiste à se dérouler dans les petits mots et les missives échangées. C'est la forme de l'amour développée au Moyen Âge, entre le chevalier et sa belle, dont le premier roman est l'histoire d'amour de Tristan et Iseut, mais qui se développera vers des formes plus platoniques ensuite. Concernant l'amour courtois, la jouissance est totalement transformée en désir, qui ne sera jamais par définition assouvi. Tout l'enjeu est le don phallique, c'est-à-dire le don de l'objet perdu. Le don phallique que fait le chevalier pour son aimé. L'exemple type de l'amour courtois que relève Lacan, c'est l'amour de la jeune homosexuelle de Freud pour sa dame. Vous l'avez vu juste un peu avant dans le même séminaire. Donc la jeune fille honore une dame, une cocotte en fait. Elle l'honore de ses assiduités, se mettant elle-même dans le rôle du preux chevalier. Il ne s'agit en aucun cas de passer à l'acte sexuel, de jouir de l'objet d'amour, mais il s'agit du phallus. La jeune fille se fait le porteur du phallus qu'elle va offrir à sa bien-aimée. Cela la met, elle, en position de dénier la castration. Ils s'appellent l'un l'autre, peut-être. Non, les téléphones s'appellent l'un l'autre. Pas vous, les téléphones tout seuls. Peu importe. Alors, je disais donc que la jeune fille se mettait ainsi en position, elle se met ainsi en position de dénier la castration, puisqu'elle est le porteur du phallus. Elle fait comme si elle l'avait. Et ainsi aussi, elle montre la scène à son père, en lui disant en quelque sorte à son père, « Tu n'as pas voulu me donner le phallus sous la forme d'un enfant ?» mais tu l'as donné à ma mère. Eh bien, c'est moi maintenant qui vais offrir ce phallus à une femme. C'est bien d'amour dont il s'agit pour la jeune homosexuelle, même si celui-ci prend une fonction de perversion par l'effet de dénégation de la castration qui s'y joue. C'est bien d'amour puisqu'elle donne ce qu'elle n'a pas. Alors, en permettant à la jouissance de passer au désir, l'amour opère en position de tiers. L'amour fait ainsi fonction paternelle. Il médiatise la jouissance. Il la fait rentrer dans le cadre du langage et du discours. Pourrait-on dire de la sorte que l'amour est un nom du père ? Lacan dit dans son aphorisme, il dit même, que seul l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir. Rien d'autre n'y parvient donc ? Cette exclusivité est interpellante, parce qu'il ne s'agit certainement pas de penser que l'amour serait la solution à tout. Tout d'abord, l'amour que l'on peut avoir pour quelqu'un ne va en aucun cas régler sa jouissance à ce quelqu'un. Cet aphorisme ne concerne en aucun cas l'amour d'autrui comme effet sur la jouissance du sujet. Aucun fantasme de sauvetage par l'amour n'est convoqué dans cette phrase. C'est l'amour que le sujet éprouve qui a pour effet de faire passer sa jouissance au désir. Donc c'est une formule de l'Œdipe tout aussi bien. C'est parce que l'objet est interdit, parce que l'objet est inaccessible, qu'il devient désirable. C'est donc l'amour que le sujet enfant porte aux parents du sexe opposé, qui opère une cessation de jouissance et fait passer cette jouissance dans l'ordre du désir, c'est-à-dire du manque. L'amour comporte en lui-même un rapport au manque, puisqu'il s'agit de donner ce qu'on n'a pas, comme le répète Lacan tout au long de ce séminaire. Donner ce qu'on n'a pas, c'est-à-dire le phallus. C'est une définition qui pose problème concernant la structure de la psychose. Cela pose la question de l'amour et de son statut dans les structures psychotiques. C'est-à-dire chez les sujets chez qui la castration n'a pas pu opérer, chez qui l'objet n'a pas pu être perdu. On parle donc de structure érotomaniaque de l'amour dans la psychose ou bien d'amour mort. Je ne développerai pas aujourd'hui ce point. Côté perversion, on a vu avec la jeune homosexuelle que cela ne pose pas de problème, bien au contraire. L'amour peut être une solution de dénégation de la castration. Il peut servir de voile à la castration par le maintien dans une relation imaginaire. Lacan insiste beaucoup dans ce séminaire sur la valeur de l'imaginaire, la prégnance de l'imaginaire dans la perversion. Côté névrose, c'est la répétition du ratage qui se rejoue dans les histoires d'amour. Comme Étienne Dao, en psychanalysant Averti, le chante dans Les mauvais choix. Quand on veut offrir ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut vraiment pas, inconsciemment reproduire chaque fois, la toute première fois, le tout premier mauvais choix. Que la jouissance condescende au désir peut aussi être entendue de plus d'une manière qui finalement se rejoignent. Le dictionnaire nous indique que ce verbe particulier, condescendre, vient du latin et indique le fait de descendre au même niveau. C'est donc l'amour qui permet à la jouissance de descendre au même niveau que le désir. C'est aussi à lire avec le tableau que Lacan construit dans ses leçons du séminaire 10. C'est lui, ce tableau, qui justifie l'idée de descendre de niveau. Sinon, on ne voit pas pourquoi le désir serait d'un niveau moins élevé que la jouissance. Si ce n'est donc à lire avec ce tableau-là que je ne vais pas renoter puisque Bernard l'a déjà fait. Donc c'est le tableau de la division signifiante du sujet. Ce tableau présente un sujet primitif qui va vers son avènement comme sujet. Selon la figure d'une division du sujet S par rapport au A de l'autre. Puisque c'est par la voie de l'autre que le sujet a à se réaliser. L'aphorisme lacanien correspond particulièrement bien au niveau de ce tableau. C'est par l'intervention de l'amour en réponse à l'angoisse que le sujet accepte de céder sur sa jouissance pour passer dans le désir. Condescendre, c'est aussi dénier, consentir, accéder, se prêter. Dans cette acception, c'est l'amour qui permet à la jouissance de consentir au désir, de rentrer dans le registre du manque. Le manque du sujet pour combler le manque de l'autre. En ce sens, le désir peut être conçu comme une défense contre le réel, c'est-à-dire contre la jouissance, comme Jacques-Alain Miller l'a développé dans son cours. Le désir est la forme que peut prendre la jouissance quand elle est écornée de l'objet. Quand la jouissance est barrée par l'opération de la castration. C'est donc la forme que cela prend via le mythe d'Hippien. L'amour, les mots d'amour, la demande d'amour transforment le désir incestueux en désir d'un autre objet pour plus tard. C'est un niet sur la jouissance immédiate, mais c'est une permission pour l'avenir. Et donc, c'est une entrée dans le désir. Donc, c'est un passage que rappelait tout à l'heure Bernard concernant le séminaire 5, où le père du troisième temps de l'Œdipe est un père qui autorise. C'est un père qui a dit non, mais c'est un père qui autorise pour l'avenir, qui autorise à un désir. Il faut bien sûr distinguer, pour ne pas s'égarer, l'amour de la passion amoureuse, qui, comme l'étymologie du mot passion vous l'indique, inclut le pâtir. Dans la passion amoureuse, la pulsion de mort est incluse. L'amour qui consiste à donner ce qu'on n'a pas, ce n'est pas l'énamoration. À entendre d'ailleurs sous son double sens, avec le jeu de mots lacanien, énamoration. Alors, me disais-je en rédigeant cela, alors au fond, enseigner un savoir, à la différence de transmettre des connaissances, n'est-ce pas aussi un acte d'amour ? N'est-ce pas ce que Lacan dit lorsqu'il parle de son enseignement, de sa mise au service de ses auditeurs, auxquels il vient apporter un savoir en cours d'élaboration, une recherche en work in progress, quelque chose qu'il ne savait pas déjà préalablement. Il vient leur apporter ce qu'il n'a pas. On peut aussi élargir, me semble-t-il, cet aphorisme au-delà de l'amour pour quelqu'un. Au fond, l'amour de son travail, l'amour de la gastronomie, l'amour des bons vins, l'amour de la musique peut certainement opérer aussi un traitement, une transformation de la jouissance sans limite à un désir qui inclut un manque et donc une limite. Voilà, je m'en tiendrai là.
Merci beaucoup à Cathy Langelet et à Bernard Sénaf qui, comme Cathy l'a signalé d'emblée, ont pris des chemins différents, mais ont apporté... tellement de points de réflexion. Alors, je vais vous laisser un petit peu le temps de préparer vos questions et je vais peut-être épingler pour chacun de vous deux points qui me sont venus en vous écoutant. Au fond, Bernard Sénave, en nous expliquant et en reprenant le schéma ici de la division subjective et de l'avènement du sujet, vous avez bien montré comment se portait aussi une barre sur ce grand autre. Et je me disais, est-ce qu'il peut arriver que ce grand autre ne soit pas barré ? Qu'il n'y ait pas de barre qui porte sur le grand autre ? Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça dans ce processus ?
Je réponds oui. Déjà. Oui. Mais dans, en tout cas, oui, mais ça fonctionne. en tout cas ici dans comment la façon dont Lacan amène donc l'autre barré au fond, enfin, c'est, il amène ça pour indiquer que l'opération ne tombe pas juste, que donc s'il y avait bon, ça, j'allais dire au ras des pâquerettes, si la division tombait juste, eh bien simplement il y aurait pas de sujet, il s'arrêterait de parler tout simplement. C'est parce que il y a quelque chose d'irréductible, c'est parce qu'il y a un reste dans l'opération qui a un sujet. Les deux sont intimement liés. Et le grand autre barré ici, eh bien, illustre ça, au fond. Je pense que l'autre barré, enfin, on peut le prendre de différentes façons. Mais ici, c'est comme ça qu'il le reprend, il me semble. Il me semble que donc la division subjective prise à partir de la division arithmétique lui sert à indiquer que c'est une division qui ne tombe pas juste, que c'est une division où il y a un reste irréductible. Et il s'en sert pour mettre en évidence ce reste irréductible. Maintenant, donc, on pourrait dire, on a parlé, par la suite, ça va l'amener à l'opération de causation du sujet, la production du sujet dans le séminaire 11, hein, qui permet de voir comment ça se met, notamment dans le cas de la névrose. Dans le cas de la psychose, on parle aussi de l'autre non barré, mais je ne crois pas que ça veut dire la même chose. L'autre non barré, alors ça serait un autre jouisseur, un autre complet, le père de la horde primitive, qui est sans limite et qui jouit. Et donc, on compare l'autre, on pourrait comparer l'autre de la psychose à cet autre non suffisamment barré. Non suffisamment barré, donc dont la jouissance n'est pas barrée. Donc un autre complet qui ne peut pas être décomplété. Voilà. Je ne pense pas qu'on puisse comparer les deux, l'autre barré et l'autre non barré. Hein. L'autre ici, le grand autre, est pris ici comme étant le trésor des signifiants, comme on l'écrit, comme il le reprend dans le séminaire 5 d'ailleurs aussi. Sur. Je peux avoir la clé, quand il fait son graphe du désir, justement, où il met l'autre de ce côté-ci. Hein? C'est l'autre en tant que le grand autre, en tant que trésor des signifiants, en tant que lexique, en tant que dictionnaire, si on veut. Hein? Et donc, c'est l'autre dictionnaire, l'autre en tant que grand autre, trésor des signifiants, mais qui n'est pas comparable au grand autre dont on parle quand on parle du grand autre dans la psychose, qui est un autre qui n'est pas décomplété, un autre complet, qui n'est pas barré, justement. Hein. Ici, l'autre barré, il le reprend pour indiquer en quoi il n'y a pas de dénominateur commun. C'est l'opération ne tombe pas juste. C'est pour ça qu'il le reprend comme ça.
Comment pourrait-on l'écrire dans la psychose?
On l'écrit de la même façon, mais je ne sais pas si. Est-ce que quelque part, d'abord, je ne sais pas moi si Lacan le reprend comme tel quel, l'autre non barré, l'autre de la psychose. Je ne suis pas sûr, moi je ne me souviens pas. Si quelqu'un s'en souvient, est-ce qu'il parle de l'autre non barré de la psychose?
Pas comme tel.
Pas comme tel, hein.
Enfin, quand il en parle, c'est dans le séminaire 3, donc
oui,
c'est avant.
Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il parle de l'autre non barré?
Je ne pense pas. Mais c'est pas... de toute façon, c'est deux statuts différents. C'est deux statuts de
complètement différents, oui.
Quand Lacan parle, on l'écrit comme ça.
D'ailleurs, on ne l'écrit pas, en fait. On en entend parler dans les cas cliniques, par exemple. Enfin, on prend ça, on veut tu en voilà. Il a affaire à un autre non barré.
Ce schéma n'est pas fait pour la psycho, non. Évidemment, mais on peut bien sûr. Lacan l'a bricolé, on peut bricoler nous-mêmes. L'étage de X, c'est quand même l'étage de la jouissance.
C'est l'étage, c'est l'étage du père, voilà, du père de la horde primitive, oui. Si on veut.
Mais donc
ou de la mère. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas développé ça. Mais à fond, après tout, on pourrait reprendre ça de cette façon-là. C'est le X du désir de la mère.
Voilà. Sauf que dans l'opération de la psycho, ce qu'on pourrait dire, c'est que il y a jouissance est en X. Enfin, ça, bon, psychose.
Oui.
Dans ce sujet.
Oui.
En X, c'est la jouissance.
Oui, X.
Et si on peut mettre l'amour.
Oui, oui, on peut mettre l'amour dans ici.
Dans la psycho, le désir ici. Et donc, forcément, il y a quelque chose de l'opération de division que l'on a détaillée qui ne se fait pas. Mais ce qui se fait, là, quand on a mis quelques annotations, ensuite, le bon sens d'enseignement, c'est la présence de cette notion que. Dit voilà, dans la psychose, le sujet à l'objet en projet. On peut concevoir que donc le petit A, le petit A ne se trouve pas à gauche mais à droite. Et le A reste très fermé, il ne se barre pas. Alors le A dans la psychose, il jouit d'ailleurs pas tant que ça. L'autre complet ne jouit pas tant. Enfin, il n'a pas la jouissance en lui, il en manque quand même. S'il court après le sujet pour le rendre, pour le persécuter, pour le... C'est bien sûr que l'autre, même du psychotique, a besoin de lui comme objet de jouissance. Mais donc, la division subjective se fait, me semble-t-il, mais enfin autrement. Mais ça, Lacan ne l'a pas détaillé.
Non, il n'a pas détaillé
mais moi,
ça.
Moi, il me semble que dans la psycho, je mettrais le A du côté de F. Il a l'objet en poche.
Oui,
petit A.
Le A, tu peux le mettre aussi bien au niveau de la barre sur l'autre. Le paradoxe, il me semble, c'est que là où il y a la barre, il y a la jouissance. Dans la psychose, hein, là où est inclus.
Le A barré est une opération considérée en passant de ce
moment. Oui, qui ne s'inscrit pas, effectivement.
Animer le schéma est un peu différent, mais il est néanmoins utilisable. Il faut seulement concevoir que il y a seulement entre S et A, entre grand A et S, il y a seulement petit A. Hein? Alors on peut bien sûr aussi concevoir que S barré, quand Bernard a écrit, c'est le rapport de A à S, ça reste tout à fait défendable. Mais ce qui change dans le statut de la psychose, c'est le statut de l'autre.
Oui.
Hein? C'est le statut de l'autre qui ne se barre pas. Et qui donc. Parce que qui dit barre, dit doute, par exemple. C'est des choses qu'on n'a pas. C'est plutôt de la certitude. L'autre veut jouir de moi, c'est-à-dire ça qui me persécute.
Et alors.
Le crachoir.
Oui, monsieur, vas-y.
Pour les deux, d'ailleurs, c'est que. Au niveau de la. Ce qui est intéressant dans ce séminaire, c'est que l'objectif. Lacan a essayé de donner un exemple de l'objet petit A. Grâce à la physiologie,
oui.
Et notamment grâce à la physiologie masculine. C'est l'un des côtés amusants de ce séminaire, c'est qu'il essaye de situer la jouissance côté masculin.
Prends le micro peut-être, Philippe.
Ah, il essaye de situer la jouissance, donc côté homme, hein, mais grâce à la physiologie masculine, c'est-à-dire du côté de la détumescence.
Oui, c'est ça.
Ça prend un peu l'exemple de la bijouterie dont parlait Bernard tout à l'heure, c'est que Lacan situe, il a cette formule fin de la séance 12.
Qui... Oui, et il reprend ça plus tard aussi. Hein,
voilà.
La question de la détumescence.
Voilà. Il lit l'éjaculation, qui est le point, là, je ne vous apprends rien, le point d'orgasme pour l'homme, mais qui évidemment annonce la détumescence, je ne vous apprends tout rien à personne. Mais là où Lacan prend quelque chose aux gens, tout de même, c'est que c'est lié à ce qu'il appelle l'angoisse.
L'angoisse, oui, tout à fait.
Il dit que l'éjaculation, il y a des circonstances, par exemple, enfin, il prend l'exemple de l'étudiant qui ne parvient pas à lâcher sa copie, et vraiment, au dernier moment, le prof vient la prendre, et pouf, il peut y avoir là un point d'orgasme. Hein?
Et c'est d'ailleurs un point qui me paraît très important. Il y en a certains qui ne peuvent faire leur exposé vraiment qu'au dernier moment. C'est seulement comme ça qu'on apprécie le travail qu'on fait, par exemple. Certains, on ne sait pas tous, mais bon, c'est des exemples. Hein? Eh bien, ce que ça montre là dans ce schéma qui me semble intéressant, c'est que là, le désir, comme dit Cathy, ça c'est bien, le désir, hein, ça, c'est, un côté, ça c'est quand même la jouissance tranquille. L'objet, il n'y en a plus. On est bien, on n'est plus angoissé, on désire.
Tant qu'on
désire. C'est dans le fond, il y a un côté, on est privé, c'est bien. Enfin, ouais. C'est le manque assumé, mais une certaine tranquillité du désir, me semble-t-il.
Tant qu'on peut désirer, on n'est pas angoissé.
Voilà. Et on ne le dit pas assez souvent. On a souvent eu dans le camp classique une espèce de mythologie du désir, l'agitation du désir. Moi, il me semble que le désir, c'est le principe de plaisir. Oui. Dans toute sa splendeur, on est tranquille. Le point, la jouissance, évidemment, se place à un moment. Ce que ce schéma dit, c'est que la jouissance se produit toujours à un moment de chute, comme tu disais. Donc, à un moment où, quand même, il y a quelque chose de l'ordre de l'arrachement de l'objet. Hein, c'est pas pour rien que la détumescence, enfin, que la jouissance des détumescences, c'est au moment où l'objet s'en va, si j'ose dire. Enfin, du moins, si on le prend. Si on le prend dans la physiologie. Hein? Et donc, bien sûr, la créature dont parlait Bernard pourrait être angoissée une fois que son homme entre dans la bijouterie pour lui offrir le bijou que jusque-là elle ne pouvait que désirer. Tant qu'elle le désire, ça va. Hein? Et évidemment, le point de jouissance, ce sera évidemment un autre moment, au moment peut-être où il sera peut-être question que ce bijou, elle le perde. On le lui vole. Ou elle l'égare. Il y a là un point de jouissance. Il y a des femmes qui perdent leurs bijoux chez leur amant, enfin, qui l'égarent, qui l'y oublient. C'est des moments. C'est vraiment marqué de ça. Hein, où vraiment la jouissance est là quelque chose au moment où le point où il y a cette dimension vraiment de la séparation de l'objet. Hein,
tu allais nous poser une question.
Je ne sais plus. C'était une association que je faisais. Oui, alors une question que j'avais à Cathy, notamment. Oui, c'est ça. Je voulais dire simplement, c'est que le désir, est-ce qu'on peut dire ça? C'est quand le désir, c'est quand l'objet est arraché et somme toute qu'on a assumé cette perte. La perte assumée, c'est bien, vous avez le désir. Ce n'est quand même pas une perte sèche. En échange, vous avez le désir, la vie, et vous voyez ça d'ici. Alors que la jouissance, c'est justement quand la perte se fait. C'est là. Parce qu'une perte, c'est bien joli, mais comment est-ce que ça se vit, une perte? Eh bien, ça se jouit. Est-ce qu'on peut dire ça? Et justement, j'avais une question. C'était la question pour Bernard. On avait une question pour Cathy.
Celle-là, c'était ma question.
Absolument. D'accord. Et la question pour Cathy, c'était autour de Étienne Dao, par exemple. Que tu disais cette...
Oui.
C'est bien sévère, là, dans le fond. Mais alors, aimer, c'est donner ce qu'on n'a pas. C'est la définition de Lacan. Mais Lacan n'a jamais dit, à ma connaissance, à quelqu'un qui n'en veut pas. Ça, ce sont des rageots lacaniens et lacanoïdes.
Non, d'abord ça vient de Jules Renard.
Ouah.
Et puis, il semble, moi aussi je pensais que ce n'était pas lacanien, il semble que Lacan l'ait dit comme ça aussi, à quelqu'un qui n'en veut pas. Et j'ai retrouvé ça sur Internet hier, j'ai pas eu le temps de vérifier où exactement, mais ça vient de Lacan l'a dit aussi comme tel. Mais en fait, ça vient de chez Jules Renard, que Lacan ne cite pas.
Qu'est-ce qui vient de chez Jules Renard?
La formulation, l'amour, c'est donner quelque chose qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Ça, c'est de Jules Renard.
Voilà. Mais donc, Lacan, justement, si j'ose dire, il coupe un peu Jules Renard, parce que dans son enseignement... Tout ce qu'on trouve, c'est donner ce qu'on n'a pas, et bien sûr, quelque part, dans un coin, mais ce serait bien de l'apporter, parce que moi, je ne sais pas. À quelqu'un qui n'en veut pas, ça, je ne me souviens pas d'avoir trouvé la formule. Hein? Et donc, je me disais que, justement, les vers de Dao, ça évoque plutôt, non pas vraiment... là, c'est plutôt la passion amoureuse dont tu parlais. Parce que ça... Ce n'est pas l'amour ce n'est pas la perte ou la réduction de la jouissance qui se transforme en désir. Dès lors qu'on donne ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, on est sûr d'une chose, on ne sera pas dans le désir, mais dans une jouissance, et on en pâtira, ce sera très malheureux, me semble-t-il. Est-ce qu'on peut dire ça?
Non, je
si, pense, on, si on complète la formule de Lacan,
non, je pense que c'est dans le sens que tu disais plutôt avant. C'est quelqu'un qui ne veut pas, par exemple, de la rivière de diamants. Hein? C'est quelqu'un qui n'en veut pas comme tel. Donc l'autre est dans le désir aussi, c'est raté aussi. La chanson de Dao, elle va dans ce sens-là, mais donc quelqu'un qui n'en veut pas, c'est pas du côté du vouloir, c'est du côté du désir aussi. Enfin bon, toute cette chanson est vraiment très, il faut l'écouter, mais c'est vraiment très une chanson qui parle du ratage, qui parle de l'inconscient. Enfin, bon.
Voilà. L'amour tout de même, ça fonctionne un peu.
Oui.
Si on n'est pas trop pessimiste, on dit que l'amour, ça fonctionne tout de même un peu, du moins un moment.
En tout cas, là.
Il faut bien que l'autre en veuille un peu.
Oui, mais ça dépend. C'est ce don que l'autre ne veut pas. Hein? C'est pas qu'il ne veut pas de l'amour, c'est qu'il ne veut pas de cet objet tout à fait. Hein?
Surtout ne me donne pas.
Mais oui, c'est ça. Hein? C'est dans ce sens-là. Ouais. Surtout ne me donne pas.
Je m'appuie sur l'exemple de la rivière de diamants.
Oui, mais c'est dans ce sens-là.
Ce qui est intéressant, enfin moi j'ai trouvé intéressant que ce qu'amenait Cathy en articulant ce que moi-même j'avais pas fait ce pas supplémentaire, mais c'est pas forcément puisque c'est la leçon suivante.
Mais oui.
Mais c'est vrai que au fond, ce qui permet de continuer à désirer et ce qui permet de voiler le réel de l'objet. Hein, ce qui permet de continuer à aimer un objet qui est agalmatique, qui est brillant, c'est l'amour, à partir du moment où...
Oui, mais donc c'est ce qu'il développe à la fin. Alors, je ne l'ai pas inclus ici dans ce travail, mais à la toute fin du chapitre 13, donc, il parle de l'angoisse côté homme et de l'angoisse côté femme. L'angoisse côté homme consistant à être angoissé par le fait que l'autre veuille jouir de lui, veuille sa jouissance, hein, et donc atteigne ce point qui est de perte de l'objet, donc la détumescence. Et côté femme, c'est le fait, dit-il, d'être haïsé, c'est-à-dire d'être, c'est un jeu de mots pour dire d'être d'être mis en petit objet A, c'est-à-dire d'être découpé en petites rondelles. Hein, le désir de l'homme réduit la femme à des petites rondelles, à un sein, une fesse, etc. Et donc l'amour vient pour traiter ça,
oui.
Hein, et faire que ce soit supportable. L'amour avec tous ses mots, etc., permet à ce que...
Habille,
tout à fait. Cette haïsation en une forme complète, idéale, etc. Enfin, tout ça rend dans des mots, quoi. De la même manière, du côté homme, l'amour permet de supporter ça.
J'ai oublié ta question, je ne sais plus.
Non, je disais que le désir, c'était l'opération de séparation était faite.
Oui.
Et assumée.
Oui.
Oubliée.
Oui, oui.
Commémorée. Oui, oui. Alors que la jouissance, c'est plutôt celle d'opération de séparation avec l'objet en cours.
Mmh.
En cours. Cette opération d'arrachement,
oui.
Voilà, qui
oui.
Se...
Oui, oui, peut-être. Oui.
La jouissance se vit, le désir est quelque chose de... Mmh. Quelque chose un peu de l'ancien combattant, il y a quelque chose de passé, de dépassé, d'assumer, bon, c'est tranquille. Alors que la jouissance a quelque chose qui est c'est quelque chose qui se vit ici et maintenant. Alors que le désir est plus quelque chose. Auront-ils l'objet cause du désir, ça met évidemment bien le désir dans un.
Ce qui me...
absence, un manque, mais il y a quelque chose de commémoratif.
Ce qui m'induit en erreur, c'est la confusion que je suis en train de faire entre la jouissance et le plaisir. Parce que je mettrais la jouissance du côté du réel, enfin, ce qui amène Lacan à la fin de son enseignement. Enfin, on voit bien où est-ce qu'il va à partir de ceci, à partir du moment où c'est du Lacan pur laine, où est-ce qu'il sera amené, où il va, c'est-à-dire à ce qui précède à ce qui précède l'instauration du désir, autant qui précède ça, c'est-à-dire le réel, enfin, du côté du réel, avant que ne s'articule quoi que ce soit du côté du sujet, avant qu'il se mette à parler, du côté du blablabla, si tu veux, du côté de la langue, du côté du... Non. Tu vois, ce X se situe de ce côté-là, plutôt, de ce qui est avant l'apparition du désir. On voit bien ça ici, hein. Donc, avant l'apparition du désir, il y a ce X qu'il faut situer du côté du réel. Moi, je le mettrais là, si tu veux. Toi, tu mets la jouissance là aussi. Voilà, cette jouissance-là, c'est celle qu'on retrouve, par exemple, chez le petit Léris, qui dit, quand son soldat tombe, qui peut dire en même temps, heureusement, qui sort son... Là-dedans, il y a de la jouissance. Il y a une jouissance, parce qu'elle est adressée à personne. Elle n'est pas adressée à l'autre. Ça sort comme ça de sa bouche. C'est la jouissance pure qui s'exprime dans ce heureusement. Là, je mettrais la jouissance, et donc qui est antérieure à la construction, à ce qui deviendra. La perte, elle se situe où là ? La perte se situe justement dans le moment où, quand son petit soldat tombe par terre, là, déjà, il y a une perte, on pourrait dire. Il y a heureusement qu'il sort parce que son petit soldat n'est pas cassé. Et où est-ce qu'il y a... Il y a une autre perte qui se situe où ? Elle se situe au moment où sa mère lui dit, l'autre, ce qui vient de l'autre lui dit, on ne dit pas heureusement, on dit heureusement. Et là, il perd un bout de sa jouissance, parce que jamais plus il n'éprouvera cette sorte de jouissance qu'il a pu éprouver dans ce petit souvenir de sa plus tendre enfance, qui précède même, j'allais dire, l'entrée dans le langage, quoi. Ou on peut dire que c'est là l'entrée dans le langage, quoi. Je mettrai là la jouissance de ce côté-là.
Alors, je vais peut-être demander s'il y a des questions dans la salle.
Je voudrais demander comment on peut rendre compte, enfin quelque chose qui me vient comme ça, là où il y avait un corps imaginarisé qui relevait d'un morcellement, on peut dire, quel est le chemin parcouru, est-ce qu'on peut en rendre compte, pour parler d'une fragmentation ici, si j'entends bien, ces objets qui chutent, qui relève d'une, voilà, quelque chose qui se détache et qui relève d'une fragmentation. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à faire à...
Peut-être bien, oui. Je vais essayer d'en faire un. Pour passer de l'organisme au corps constitué, eh bien, il faut en passer par le langage. Mais ce n'est pas sans qu'il y ait une perte quand même, qu'il y ait une perte de jouissance réelle. Sinon, ben là on ne peut que l'imaginer aussi. Hein. Sinon, c'est alors le corps qui jouit de ses organes. Enfin, de ses, hein, je me souviens d'une patiente qui pouvait expliquer comment elle était dans un cauchemar permanent de voir son propre corps par-dessus, ouvert, ventre, rongé par les vers. Et elle ne pouvait pas éloigner cette vision-là. Là, on est dans des morceaux d'organes qui ne se rassemblent pas. On a ça on voit ça plus ou moins dans la clinique. Hein, du côté de la schizophrénie, par exemple, où cette difficulté que vous évoquez se retrouve, eh bien, on a affaire à ça. C'est Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas si j'ai ramené ce petit exemple clinique de cette petite fille qui, quand elle était venue me voir dans notre institution, m'expliquait qu'elle était autiste et je lui demandais ce que c'était que l'autisme. Elle me disait « je fais caca partout et j'en mets partout sur les murs », interrogeant cette question. Est-ce que ce qui sort de son corps, ce n'est pas des morceaux d'elle qu'elle perd en même temps ? C'est pas, ça, est-ce que ce n'est pas sa substance ? Son être qui fout le camp par là, quoi. Et donc, tout son travail consistait effectivement à tenter de se faire un corps par l'imaginaire. Par l'imaginaire. Parce qu'elle faisait des peintures où elle essayait de représenter les corps sous différentes façons. Donc, vous avez raison. Il faut pouvoir, vous allez dire, posséder le... Enfin, utiliser le phallus pour pouvoir se faire un corps, pour pouvoir passer de l'organe au corps, y perdre quelque chose, passer dans la dimension du désir, puiser dans le trésor de signifiant, et donc du côté du désir, pour se construire un corps, pour passer des organes au corps, pour pouvoir se représenter comme corps aimable. Avoir une vision de soi qui soit aimable et pas une enveloppe, un sac rempli d'organes.
Une autre question ? Peut-être moi j'aurais voulu souligner dans l'intervention de Cathy Langelet, mais plutôt comme une ouverture à la suite des réflexions, ou en tout cas des miennes, combien je trouvais... intéressant cette progression de la jouissance au désir avec en intermédiaire l'angoisse et puis d'y associer et d'y articuler la place de l'amour. Voilà, c'était une articulation qui m'a paru vraiment très riche.
On voit en tout cas que très clairement que le désir est un produit de la jouissance. Il est issu de la jouissance. En même temps, comme dit Miller, après quand il le développe, c'est assez logique d'aller. Et c'est aussi une défense donc contre la jouissance, puisque ça vient ensuite. Hein. Mais c'en est aussi, enfin, il en est le terreau. Le terreau du désir, c'est la jouissance. C'est quand même ce vivant-là. Hein. Mais il y a une opération qui s'est faite. Et de dire seul l'amour, je pense que d'une certaine manière, on ne peut l'entendre que seule l'opération de l'amour, c'est-à-dire l'opération oedipienne, arrive à produire ça.
Oui, justement, parce qu'on ne dirait pas qu'on va aller dans ce sens-là.
Tu dis que l'amour serait peut-être un nom du Père, c'est tout.
Dans ce sens-là, oui.
Ah oui, non, mais c'est très juste. Mais il faut d'abord qu'on aille plus loin. Hein,
oui.
C'est le point, si l'amour fait nom du Père, laissons le dire où il est. Hein? Ce n'est pas que l'amour sera nom du Père sous le modèle de l'Oedipe, pas du tout. C'est plutôt l'Oedipe qui, s'il existe, est à calquer sur le
tout
modèle de l'amour, donc du langage.
Tout à fait.
Parce que personne ne dit, La Rochefoucauld dans ses célèbres maximes, a dit que l'amour, personne n'aurait été tombé amoureux s'il n'en avait jamais entendu parler, ce qui a permis à Gide de dire que celui qui n'est pas amoureux, c'est qu'il a été mal élevé. Hein, eh bien, ça dit donc que c'est un produit culturel, c'est un effet de discours, c'est le discours qui fait donc du père, et pas papa. Enfin, c'est bien que tu soulignes le côté nom du père et donc d'organisation, il en faut, de l'amour, c'est très bien. Mais pas pour le référer à papa, justement. C'est
non, pas dans ce sens-là, effectivement, mais plutôt comme structurel.
C'est ça.
Hein, comme une formule.
Justement, moi j'ai insisté beaucoup sur le fait de ne pas compléter la formule, pour moi. C'est que je trouve que ça marche mieux. C'est plus convaincant, c'est que dès lors que c'est à quelqu'un qui n'en veut... Enfin, si on a cette deuxième partie de la formule, rend la chose, il me semble, ramène un surcroît de jouissance. Celui de la perte du malheur, etc. C'est dans ce sens-là que si on veut être pragmatique, donner quelque chose à quelqu'un qui n'en veut pas, oui, c'est vrai, c'est une formule de l'amour malheureux. Alors évidemment, en étant lacanienne, tu dis non, structurellement, c'est pas malheureux, d'accord, mais quand même, quand, ça s'entend de façon malheureuse, concrètement. Je veux dire, spontanément, on l'entend comme ça.
Moi, je ne l'ai pas entendu comme ça, mais...
donner quelque chose, c'est peut-être plus précieux. Le donner à quelqu'un qui n'en veut pas, je trouve ça drôle.
Je ne sais pas si je trouve ça drôle, je trouve que ça fait partie structurellement de la dimension de l'amour, où il y a toujours effectivement quelque chose qui est raté, mais qui se construit néanmoins comme ça. Enfin, justement, hein, quand l'autre en veut et que tout coule pour le mieux, on est dans quelque chose de complètement mort, de complètement passionnel et figé. On a ce genre de couple de psychotiques qui peuvent être collés l'un à l'autre. Je pense, enfin, c'est parce que me viennent tout de suite des images, des souvenirs plutôt de sujets, notamment en Courtil, etc., de passions amoureuses qui sont très fortes et dont on n'arrive plus à décoller l'un de l'autre, parce que l'autre, il en veut, justement. Tandis que dans la dimension de l'amour qui rate, bien sûr, il en veut pas. Enfin, tout ça est dialectique. C'est cette dimension dialectique, je pense, qui est incluse dans l'autre qui n'en veut pas, et pas la dimension malheureuse. Moi, je ne l'ai pas entendu dans sa dimension malheureuse, mais du côté, simplement, il y a un sujet, il y a un autre, et les deux sujets sont un peu tous les deux à côté de la plaque.
Si d'accord, complète. La formule quasiment jamais, sauf peut-être dans un point ou l'autre, mais en général, il ne la complète jamais. Les trois quarts du temps, il ne la complète pas. Il doit y avoir une raison.
Oui, parce qu'il met l'accent sur le « a ». Et ça s'entend beaucoup mieux dans « l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas ». Quand on insiste sur le « a », ce qu'on n'a pas. Si tu ajoutes d'autres parties, bah oui, ça devient tout de suite plus compliqué, il faut se justifier, etc. Tandis que c'est plus pur dans cette formule, dans l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas. Surtout qu'on est dans ce séminaire, et qu'il y a des formules comme ça qui reviennent tout le temps, dont celle-là. Et l'amour, l'angoisse n'est pas sans objet, ça revient tout le temps aussi, il serine ça. Il le serine pour le faire entrer.
D'accord. Bon, moi, Moi, je me disais que l'amour dure 3 ans, comme tout le monde.
Toi, hein? Tu te disais ça?
Voilà, je me disais qu'il dure 3 ans. Mmh. Hein? Et qu'il dure 3 ans, mais bon, il peut reprendre. Enfin, c'est un malentendu. Tu as fait sur la dialectique, c'est un malentendu permanent, perpétuel. Mais il y a quand même des moments. Il y a quand même des moments de cristallisation. Je vous ai acheté Adal pour parler de la cristallisation amoureuse. Lacan pourra même dire que, dans le fond, c'est une suppléance.
Oui.
Hein? L'amour est une suppléance. Et donc, une suppléance, si j'ose dire, elle supplée, mais pour suppléer, il faut tout de même qu'elle marche.
Mais oui.
Alors que si on complète la formule, ça ne marche jamais.
Mais si
il ne me semble pas.
Mais si, justement, ça marche. C'est parce qu'on la complète
que ça marche. Tu dis que ça rate.
Mais non. Justement, c'est la formule qui fonctionne. C'est parce que
c'est le ratage qui est efficace.
C'est le ratage et le fait de donc parce que c'est raté de le poursuivre tout le temps. Pour moi, c'est la formule de l'amour décidé, ouais. Et pas de la passion amoureuse de l'énamoration.
Ouais, bon, écoute,
et à mon sens, l'amour dont il est question là, ce n'est pas l'amour eau de rose, c'est l'amour au contraire décidé. Hein, l'amour qui peut faire qui permet de condescendre à la jouissance de condescendre au désir.
C'est l'amour courageux.
Mais c'est l'amour courageux.
Oui, l'amour décidé, c'est vrai qu'il y a à côté travail. Bon, mais
l'amour décidé, c'est une formule de fin d'analyse.
Oui,
en tout cas, vous nous permettez tous les trois de poursuivre la réflexion sur cette phrase. Et juste avant de vous remercier, je voudrais attirer l'attention des participants sur le fait que dans un mois, il y avait une petite erreur dans l'annonce. Ce sont les séminaires 14 et 15 que nous verrons. Maintenant, je voudrais vraiment...
Séance
14 et 15 du...
Vous passez pas directement.
Non, les séances 14 et 15. Et donc, je voudrais remercier chaleureusement Cathy Langelet et Bernard Sénard.